voilà. Avant de commencer en fait cette présentation, je vais juste faire un petit point avec vous par rapport à la question de la sociologie de migration au Maroc, parce que c'est quelque chose d'extrêmement récent, dans le sens où le Maroc est devenu un pays en fait d'accueil à partir vers le milieu des années 2000 exactement, quand on parle en fait de ce qu'on appelle le Frontex, quand on impose en fait l'extériorisation des frontières avec l'Union européenne. À partir de 2006, le Maroc devient en fait, malgré lui, parce que quand je dis malgré lui, en fait, quand on dit ça devant les officiels marocains, ils n'aiment pas du tout, parce qu'en fait, on met en question la souveraineté de l'État. Et du coup, on les confronte à cette logique de genre, bon, vous ne choisissez pas votre politique migratoire, et on vous impose la politique migratoire. Et du coup, ça crée énormément de tensions avec les autorités. Et la tendance sur les études migratoires va changer. Vous savez très bien que le Maroc, c'est un grand pays migratoire. Sur 35 millions de population, on estime aujourd'hui, diaspora, aujourd'hui on ne parle plus des migrants marocains, on parle de diaspora marocaine de 5 millions. Sur ces 5 millions, il y a 2,5 millions, ce sont des binationaux marocains. C'est-à-dire, en fait, quand vous prenez par exemple l'Europe, les premiers nationalité hors Union européenne, naturalisée Union européenne, c'est les Marocains. C'est la première communauté en Europe. Avec 2,5 millions, et ce qui est extrêmement important, notamment franco-marocains avec la nationalité marocaine, française. Et on le voit très clairement lors des élections, par exemple, les dernières élections au Maroc, on voit en fait la présence de la communauté marocaine au niveau en fait des votes. C'est assez hallucinant. Parce que moi aussi, je vais voter et tout. Qu'en fait, on voit la présence de la communauté marocaine qui va voter pour les élections en France, tout en habitant au Maroc, et pas pour les élections au Maroc, malgré le fait qu'ils habitent au Maroc. Et c'est tout le rapport, en fait, un peu ambivalent par rapport, et si ailleurs, comment ça se crée, en fait, tout en étant des binationaux marocains, juste au système juridique marocain, mais qui ressent en même temps plus français que marocain dans le sens de droit. Pas dans le sens d'appartenance culturelle, c'est-à-dire en fait en termes culturels, ils sont très marocains, et en termes de rapport à l'État et de droit, ils se ressentent plutôt français. C'est cette ambivalence qui est assez intéressante. La sociologie en fait ne commence à s'intéresser à la question migratoire que vers ces années-là. On a des études, notamment d'un collègue anthropologue à Meknès. Qui travaille déjà depuis des années 90 sur la migration, mais on travaille sur l'immigration marocaine à l'étranger. C'est-à-dire, en fait, c'est essentiellement, la plupart des travaux sont centrés sur ça. Et c'est vers les années 2000 qu'on commence à s'intéresser à la question migratoire subsaharienne, mais les économistes, comme, voilà, c'est essentiellement les économistes qui travaillent là-dessus, parce que ce qu'on veut, en fait, les bailleurs de fonds, à ce moment-là, en tout cas ceux qui financent les recherches, qui les intéressaient les chiffres, ils veulent voir un peu le taux de mobilité, de machin, etc. Et ça parle à tout le monde parce que ça fait effrayer quelques-uns et ça rassure les autres. Voilà, comme il dit le chef de la SCP au Maroc, il disait en fait les chiffres, c'est bien ça. Ça voilà, le chiffre, c'est comme un pékiné en fait. Ça fait le tour du corps, mais ça cache l'essentiel. Voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, avec les chiffres, on peut dire un peu tout. Et du coup, en fait, c'est vers la fin des années 2000 qu'on la question migratoire dans le centre du Maroc devient un pays transit. On s'intéresse aussi à ceux qui partent. C'est-à-dire, en fait, on n'a jamais posé la question en fait à ceux qui restent. On s'intéresse essentiellement à ceux qui partent. Mais on commence des études, en fait, au sens qualitatif du terme, vers les années, début des années 2010. Voilà, réellement, on essaie de s'intéresser au parcours des migrants. Et c'est pas par hasard, parce qu'en fait, ça coïncide essentiellement avec ce qu'on appelait, bon, je suis pas tout à fait d'accord avec Vin quand il dit les pays arabes. Bon, je suis très réticent par rapport à ce mot-là, parce que ça... l'Afrique du Nord, c'est pas arabe. Et ça, c'est intéressant aussi de voir qu'on n'a aucune appellation qu'on s'est donnée à nous-mêmes. On est appelé les pays MENA par l'Union européenne. On était appelé l'Afrique du Nord par les Français. Et par la suite, on était appelé Maghrébin par les Français. Voilà. Mais c'est ça. On n'a jamais allé voir ces pays-là ou ces populations pour leur demander quand vous voulez être appelé. Et du coup, en fait, la catégorie pays arabe, etc., je trouve que politiquement, c'est assez violent comme discours. Parce que Il y a une diversité culturelle qu'on gomme en fait derrière ces politiques publiques et derrière ce discours-là.
L'Afrique méditerranéenne qui fait son chemin.
Oui, l'Afrique méditerranéenne, la Méditerranée sud, l'Afrique du nord, mais pour moi, arabe, c'est assez chargé en fait. Et je pense qu'il se passe aujourd'hui dans le RIF en grande partie à cause de ça aussi. C'est quand ils ont refusé que Jazeera couvre un peu la mobilisation dans le RIF parce qu'en fait, ils ont traité cette mobilisation de printemps arabe. Le nouveau printemps arabe, ils ont dit non, c'est pas un printemps arabe, on n'a rien à voir avec les Arabes. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est un printemps amazigh, d'accord, qui se produit dans des régions amazigh, d'accord, et qui concerne les pays de l'Afrique du Nord. Vous voyez, c'est vraiment l'émergence de la culture locale, c'est pas dans le sens, en fait, le rejet de l'État-nation, mais c'est une autre manière de s'intégrer dans l'État-nation en se demandant d'être intégré en tant qu'identité à part entière et pas. Et ces études commencent, comme j'ai dit, en fait, nous on a commencé, bon, c'est dans ce cadre, en fait, cette étude est venue. La première étude a été faite sur la migration des Français au Maroc. C'est le premier travail qu'on a fait, qui est publié maintenant, entre proximité et ambivalence. Mais on a travaillé essentiellement sur le point de vue des Marocains par rapport à cette migration. Comment les Marocains perçoivent l'immigration française au Maroc. Et aussi comment les Français perçoivent leur propre migration au Maroc. Sachant que quand je parle d'immigration française au Maroc, je vais donner juste en fait la question de droit en fait pour ceux qui font le droit. Vous savez que le droit est producteur lui-même en fait des catégories migratoires. C'est-à-dire en fait au sein de la même famille, vous allez trouver un Français, un résident et un clandestin. Ce sont trois dans la même famille. Il y a un qui est venu, qui est né en France, le garçon est né en France, les parents ont les papiers, et un frère qui est resté au pays, qu'on a ramené en France, mais qui n'a pas les papiers. Et du coup, en fait, au sein de la même fratrie, vous avez trois catégories juridiques complètement différentes. Au Maroc, c'est la même chose, c'est-à-dire, en fait, on estime la population française au Maroc de genre 120 000 personnes. Sur les 120 000, en fait, il n'y a que 35 000 qui sont déclarés, et les autres, en fait, ils circulent d'une manière illégale. C'est-à-dire, en fait, si on prend les statistiques des migrants clandestins au Maroc, vous avez plus des Européens que des Africains subsahariens. Parce qu'en fait, les Blancs, les Européens, etc., ils ont la possibilité de circuler entre les deux frontières, Ceuta et Melilla, et le Maroc, pour renouveler leur séjour. C'est-à-dire, en fait, vous avez un visa de 3 mois, vous restez 3 mois avant et moins un jour, au moins 2 jours au Maroc. Vous rentrez à Ceuta et Melilla et vous revenez par la suite au Maroc. Et ça vous permet en fait de renouveler votre séjour sans demander de visa de 3 mois en permanence. Et du coup, comme ça, vous avez plein de migrants qui sont dans la même situation depuis 15 ans, 20 ans, etc. Parce qu'ils sont dans une logique de « je ne veux pas perdre mes droits en France ». C'est toute une logique, en fait, le rapport au droit. Ça ramène un peu une autre catégorie. Et c'est la raison pour laquelle on voulait s'intéresser un peu à la migration subsaharienne par rapport à une ville frontière, Tanger. Qu'est-ce que ça représente, Tanger? Mais d'un point de vue extrêmement ethnographique. C'est-à-dire, le but, c'est ni de produire en fait des chiffres, ni des statistiques, mais produire un discours par rapport à un parcours, en fait. Comment les migrants eux-mêmes vivent cette migration. Le travail a été fait, ça c'est le deuxième projet, le travail a été fait essentiellement en croisant l'immigration subsaharienne avec l'immigration espagnole, qui démarre à partir de 2008 au Maroc, avec une arrivée assez importante. Lors d'un entretien avec le consul d'Espagne au Tanger, il disait, bon, on estime qu'il y a 50 000 Espagnols qui sont arrivés ces 2 dernières années vers les villes du Nord, mais bon, ça c'est un chiffre non officiel, et bon, vous pouvez pas écrire ça parce que je vous le dis d'une manière amicale, mais voilà, c'est statistiquement, en fait, on n'a aucune demande de résidence des Espagnols au Maroc, à part ceux qui investissent, en fait, c'est-à-dire en fait deux catégories, à ceux qui migrent à Tanger, dans le nord du Maroc, pour trouver un travail, et ceux qui viennent au Maroc pour investir, en fait. Et voilà. Et le but, c'était de choisir un peu pourquoi Tanger essentiellement, mais essayer de la croiser avec la migration subsaharienne. Et c'est dans ce sens-là que Tanger, pour nous, était une ville extrêmement importante pour essayer d'analyser le cheminement historique, mais social et économique, de la question de processus qu'on appelle de la frontalisation. C'est-à-dire, en fait, pour nous, les frontières, elles ne sont pas uniquement physiques, elles ne sont pas imposées par les États, mais comment des individus, des groupes, créent d'une manière réelle, imaginaire, en fait, la catégorie frontière. C'est comment se donne leur imaginaire. Et quand, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on part, par exemple, avec les Espagnols, pourquoi vous avez choisi Tanger, bah, ils vont dire, en fait, on a choisi Tanger parce que les frontières sont très proches. Et ça devient, c'est intéressant, c'est-à-dire, en fait, ces frontières proches, on peut les transgresser, on peut les passer, faire les allers-retours en permanence, c'est-à-dire, en fait, je peux travailler la semaine à Tanger ou à Tétouan, et le week-end, aller voir ma famille, parce que 90% en fait, de la population migrante est d'origine de l'Andalousie, et qui s'est aussi bien accueillie, parce qu'en fait, il y a un renversement de processus, il y a une valorisation en fait, du Maroc de point de vue de cette migration. C'est-à-dire, les Marocains, ils vont même les faire travailler, ils vont préférer faire travailler un Espagnol au lieu d'un Marocain. C'est une sorte d'une vengeance un peu symbolique, historique, de genre, bah, on partait chez eux, maintenant ils viennent chez nous. D'accord ? Et que voilà. Et on va leur répéter ça à chaque fois. Vous savez, bah, c'est humain hein, d'immigrer. Est-ce que vous comprenez maintenant qu'est-ce que ça fait d'immigration en fait ? Alors, on partait chez vous, bah, maintenant vous venez chez nous. Bon, sachant que vous êtes déjà venu chez nous avant, d'accord ? Avec une forte migration espagnole lors de la période coloniale. Et c'est vraiment ça, ça se construit dans ces découches sociales extrêmement défavorisées. Du coup, en fait, ils vont chercher à habiter dans des logements, des petites chambres, etc. Contrairement à l'immigration française qui se distingue, en fait, par rapport à... que ce soit au niveau culturel ou même par rapport à l'espace occupé. Alors, cette catégorie d'espace, c'est ça qui nous intéressait dans la ville de Tanger, c'est-à-dire où habitent les migrants. D'accord ? Et comment habitent les migrants, en fait, c'est-à-dire où, quand et comment. C'est le processus qui nous intéressait pour voir, pour saisir un peu les transformations que la ville de Tanger a connues depuis ces dernières années et essayer de voir en fait le croisement des frontières entre les différentes populations. Quand je dis les différentes populations, c'est-à-dire en fait que ce soit les Marocains, les Européens ou même les Subsahariens. Comment chacun produit un discours par rapport aux frontières. Frontières sociales, frontières culturelles, frontières physiques par rapport à l'autre. Comment ça se construit ? Tanger, ça nous intéressait pour plein de raisons, parce que c'est une ville qui a connu un développement assez important ces dernières années, ces 10 dernières années, avec les ports de Tanger Med, 1, 2, 3, la zone franche, une ville qui se développe, mais quand je dis qu'il se développe, il se développe avec une stratégie vraiment dans le sens où c'est le roi en personne en fait qui s'occupe de cet espace, parce que ça a des retombées directes aussi sur sa propre économie à lui. Il faut aussi rappeler que le roi du Maroc, c'est un businessman. Hein, c'est un businessman qui gère l'État comme une entreprise. Il a cette logique, en fait, d'entreprise. C'est-à-dire, il le fait de cette manière. Au début, il ne partageait pas. Hein. Quand il partait en Afrique, par exemple, il ne prenait que ses propres entreprises. Aujourd'hui, on voit, en fait, quand il part en Afrique pour signer des contrats, il ramène avec lui d'autres... des concurrents, notamment dans le secteur bancaire. Par exemple, Tijari Wafa Bank, c'est une chaîne de ligne royale. Et qu'on trouve maintenant partout, à part l'Algérie, qu'on trouve quasiment en fait dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, en Tunisie, c'est le deuxième réseau bancaire en Tunisie, en France aussi, en Angleterre, et Tijari Wafa Bank. Et aujourd'hui, en fait, on voit que le roi, il partage un peu. Alors, on a BMC qui s'impose en tant que concurrent et qui va signer des contrats avec le roi. C'est-à-dire, en fait, il s'impose. Et Tanger, c'est une ville qui constitue pour eux un très bon départ pour montrer un peu c'est l'image du Maroc, hein, avec un point de vue stratégique extrêmement important, mais qui permet aussi de rompre avec une histoire assez conflictuelle avec le père Hassan II, où le nord du Maroc est complètement négligé, délaissé, Et ça, c'est une manière de réinvestir cet espace. Bah, cet réinvestissement d'espace aussi a fait attirer un flux migratoire extrêmement important, notamment marocain. C'est-à-dire, en fait, il y a une forte migration locale venant de toutes les villes du Maroc qui va s'installer essentiellement à Tanger. Nous, on a travaillé, en fait, sur... voilà, je vais essayer de... voilà, on a travaillé à Tanger, en fait, essentiellement dans... Je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. OK. On a travaillé sur trois quartiers essentiellement. Alors, c'est les quartiers que vous voyez. Le premier, c'est Boukhalef. Le deuxième quartier, c'est Bni Makada et la Médina. Ce sont les trois quartiers, en fait, pour nous, qui étaient un espace d'ethnographie. Quand je dis d'ethnographie, c'est-à-dire, en fait... On arrive sur place, on reste quelques jours avec la population, en fait, les migrants et les Marocains aussi qui habitent dans le quartier, pendant un an. On était trois et on se reliait à chaque fois pour essayer de ramasser le maximum d'informations. C'est ce qu'on appelle une ethnographie à plusieurs mains. Parce qu'on ne peut pas, pour des raisons familiales, professionnelles et tout, personne ne pouvait rester en fait dans le même endroit pendant un an. Quand on ne fait pas une thèse, parce que voilà, je pense que le meilleur terrain qu'on fait, c'est lors de la thèse. Une fois c'est fini, une fois on a un poste, etc., ça devient très compliqué de faire des terrains de 8 mois, de 1 an. C'est quasiment impossible. Quoi. Vous êtes vachement... C'est pour des engagements professionnels. Et du coup, on a préféré en fait, une enquête à plusieurs mains. Il y a un qui vient une semaine, après repart, il y a quelqu'un d'autre qui le remplace. Bon, les deux enquêtes, les deux terrains, en fait, que ce soit sur l'immigration des Français au Maroc ou celui-là à Tanger, on a spécifié à Tanger, ça a été financé par une fondation suisse. Quand je dis pour une simple raison, c'est que quand on proposait en fait la même un financement de ce genre aux instances, bon, les institutions marocaines y refusent absolument parce que les Marocains, ils sont extrêmement sensibles à la question de migration subsaharienne parce qu'ils ont toujours peur de leur dire en fait que les Marocains sont racistes. Et du coup, en fait, non, on ne s'occupe pas de ce genre de trucs, etc. Et quand ils lisent les rapports et qu'ils voient que c'est beaucoup plus nuancé, en fait, que de stigmatiser une population, de traiter l'une de victimes, l'autre des racistes et tout, que tu es en train de nuancer un peu l'analyse pour montrer, en fait, la construction d'une société locale, comment ça se construit dans des tensions, des formes de conflits, de tensions, d'appropriation de l'espace, là, ils commencent à s'intéresser en disant « Est-ce que tu peux le présenter, ton travail ?» C'est tout de suite, en fait, le discours va changer parce qu'ils ont extrêmement peur, en fait, surtout quand ils savent qu'il y a le fonds initial vient de l'Europe. Ils sont très sceptiques par rapport à ça. L'immigration subsaharienne, essentiellement à Tanger, se caractérise par un parcours collectif, au moins au niveau du discours. Quand je dis « se caractérise par un parcours collectif », c'est la façon dont les migrants racontent leur propre histoire migratoire. C'est-à-dire, en fait, quand on raconte l'histoire migratoire, on la croise toujours avec celle des autres. Et en fait, le migrant lui-même, c'est ce que les chercheurs ils vont tout à fait faire, en fait, un processus à l'inverse. Un chercheur, quand il travaille sur un terrain, il va prendre en fait le migrant en otage. C'est-à-dire, en fait, chaque migrant devient, il reflète en fait un point de vue séparé des autres. Alors, quand on donne la parole aux migrants eux-mêmes, ils construisent en fait leur discours et leur parcours dans la complexité en fait de la communauté d'appartenance. Et cette communauté d'appartenance, il peut changer à n'importe quel moment. Au fur et à mesure, on change de lieu de résidence, on change de lieu d'appartenance. Alors, c'est-à-dire, en fait, ceux qui habitent par exemple à Bni Makada, c'est pas la même chose que ceux qui habitent au Médina, c'est pas la même chose que ceux qui habitent à Boukhalef. Et du coup, en fait, à chaque fois, ils vont construire un discours complètement différent. Par exemple, dans le quartier de Bni Makada, ce sont essentiellement les Sénégalais qui habitent dans ce quartier-là et qui tous ont une activité professionnelle informelle. Ce sont des vendeurs ambulants, etc. Et qui font des chiffres d'affaires assez importants et qui sont reliés aussi à un réseau de commerce au niveau transnational extrêmement important avec de la marchandise qui vient de Sénégal passant par la Mauritanie et qui arrive chez eux à Tanger. Et du coup, en fait, ils ont réussi à approprier en fait l'espace de Bni Makada, une partie, et s'insérer dans l'économie informelle de ce quartier qui est lui-même un quartier populaire par définition, qui fondait vers les années 70. Le Boukhalev, c'est un quartier en fait qui émerge vers les années 2000 en fait, parce que Boukhalev, là, c'est un quartier, c'est l'extérieur de la ville de Tanger, c'est un quartier extrêmement rural. C'était un village en fait qu'on appelle Gznaya. Village, quand je dis village, moi je le connaissais dans les années 2000 en fait, avec des vaches, des moutons, etc. C'est un petit village. Et à la fin des années 2000, en fait, là, cet espace il devient un espace de promotion d'une nouvelle forme d'habitat. Notamment des sociétés du roi en personne, Doha par exemple, qui construit en fait des dortoirs là-bas, essentiellement destinés à des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, avec un prix de 250 000 dirhams par appartement, c'est-à-dire en fait 25 000 euros par appartement. Et il se trouve que cet espace-là coïncide au même moment, en fait, juste en face, quand on le voit ici, là, juste là, on a ce qu'on appelle en fait la forêt de Rabat américain, la forêt des Américains, où il y avait une grosse concentration d'immigrants clandestins qui ont approprié cette forêt comme lieu de résidence. Et quand Doha en fait commence à construire ici, tout de suite ces appartements en fait ils sont vides, ils sont achetés par des migrants et les migrants ils arrivent et ils approprient en fait cet espace. Il y a deux dynamiques. La première, faite par les migrants eux-mêmes. En fait, ils défoncent les portes et ils occupent les appartements. Et une autre dynamique, ce sont les Marocains qui défoncent les portes et qui font louer en fait, des appartements à des migrants. Quand je dis défense, ça ne leur appartient pas. Si je dis, tu me donnes combien pour ça? Et on assiste à une économie informelle qui s'est développée par la suite en termes de branchement d'électricité, de l'eau, d'Internet et tout. C'est tout le monde, en fait, il vit de cette économie avec une population de gens 25 000 habitants, quoi. C'est ce qui a émergé, en fait, ce que vous avez entendu dans les dernières années, des tensions et des conflits qui ont fini même avec la mort de Charles, en fait, le Sénégalais, suite à une attaque, en fait, à une maison. Des migrants. C'est-à-dire, en fait, ça donnait lieu par la suite à des confrontations entre Marocains et entre subsahariens en raison de ce que ça permet d'émerger en termes de proximité, en fait, qui n'était pas négocié ni réfléchi depuis le début. Et qui a fini tout de suite, en fait, par produire un choc assez important, bien évidemment alimenté par les médias. Les Marocains parlent de péril noir. Les médias, je parle essentiellement des journaux arabophones. Et les médias européens parlent du racisme marocain. C'est-à-dire, en fait, chacun essaie de se positionner dans une catégorie de victimisation par rapport à ça. Contrairement au Médina. Alors, Médina, c'est un très petit espace, en fait. Quand les migrants arrivent, c'est les premiers migrants qui arrivent à Tanger, ils arrivent au Médina, vers la fin des années 90. La Médina de Tanger, c'est une ville à ce moment-là, en fait, la Médina de Tanger extrêmement pauvre, morte, au sens où il n'y a aucune activité économique, on ne peut même pas circuler en Médina la nuit en raison de taux de criminalité. C'est une ville très pauvre, etc. Mais quand les migrants arrivent vers la fin des années 90, en fait, moi, c'est moi qui coordonnais ce projet. Et bon, ce qui m'a aidé aussi, pour une simple raison, c'est que moi, j'avais fait une partie de mes études à Tanger, à ce moment-là, vers les années 90, et j'ai assisté à l'arrivée des premiers migrants, notamment des Nigérians et Camerounais, à Tanger, qui ne parlaient pas à l'époque français. Et j'ai vu, en fait, leur appropriation de les espaces. Je me souviens très bien de ça, en fait. Tout le monde était étonné de les voir dans les rues de Tanger et tout. Et le rapport avec eux était complètement différent. C'est-à-dire, en fait, la population les voit comme victimes, en fait, d'une persécution politique, économique, sociale, etc. Et du coup, vraiment, on leur donne à manger, on mange gratuit. Quand on est migrant, vers les années 90, quand on est migrant noir, on mange gratuitement. On s'habille gratuitement. D'accord ? Il fallait juste, en fait, être là. Et les gens, en fait, ils sont vraiment solidaires par rapport à cette situation. Et les logements accessibles au Médina, ils sont tout de suite en fait donnés à ces premiers migrants qui arrivent à Tanger et qui occupent cet espace et qui redonnent une vie à la ville au Médina. Le Médina, tout à coup, devient un espace de vie. On peut circuler le soir. Des commerces commencent à s'ouvrir parce qu'il y a une activité économique qui se développe. Des cafés, etc., parce qu'ils sont là, ils ne travaillent pas, alors ils font de la charité la journée, ils viennent le soir au café, etc. Ça fait bouger, en fait, la ville. Et petit à petit, en fait, on va voir que la Médina devient, la ville de Tanger se développe au niveau économique, et Médina, en fait, reprend sa place et sa position exotique de point de vue occidental. Et là, en fait, les Européens qui arrivent, parce que Tanger se développe avec ses infrastructures, et on veut approprier cette Tanger, mais pas dans sa dimension moderne, mais dans sa dimension exotique. Et on commence à acheter les anciennes maisons, les riades, etc. Et tout de suite, en fait, l'immigrant qui ont déjà été fusionnés avec la précarité de la ville, la population la plus précaire, finissent aussi par repartir petit à petit vers Bni Makkada ou Boukhalef. C'est-à-dire, en fait, ce sont des deux zones de précarité, en fait, et qui ne sont pas liées forcément aux migrants, mais qui représentent, en fait, le développement de la ville, qui est en train d'exclure tous ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter au centre-ville ou d'habiter au Médina. Parce que le loyer devient très cher au Médina. Le mètre carré aussi au centre-ville de Tanger devient extrêmement cher. Alors il reste que les quartiers dortoirs, soit les anciens comme Bni Makkada, soit les nouveaux comme Boukhalef. Et c'est dans ce sens-là que les migrants qui vont rester, les migrants subsahariens qui vont rester habiter au Médina, ils se distinguent socialement et culturellement par une position assez importante. C'est-à-dire, en fait, soit c'est des anciens joueurs de foot, soit c'est des artistes africains, on voit la distinction, en fait, qui se fait. Soit c'est des anciens migrants qui sont arrivés vers la fin des années de 90, début des années 2000, et qui ont développé un réseau extrêmement important au sein de cet espace, et qui ont pu maintenir un lieu de vie grâce à ces réseaux-là. Parce qu'en fait, le locataire le connaît depuis 10 ans, 15 ans, et du coup, en fait, non, il reste avec nous, il ne part pas, on l'adopte. D'accord ? Et ceux, les nouveaux, ils sont exclus. Ils ne sont pas exclus, en fait, uniquement par les nouveaux arrivants des Marocains de Médina, mais sont aussi exclus par les anciens migrants qui habitent cet espace, en considérant comme étant porteur de l'insécurité pour eux et pour les autres. Et en fait, là, comme il disait un Sénégalais, Abdullah, il me disait, depuis que les subsahariens arrivent au Médina, on fait tout pour les ramener à Boukhalef parce que ici, on est trop exposé. Et il faut que des bons éléments pour qu'ils soient exposés. Les mauvais éléments, ils doivent aller ailleurs. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça, en fait, je parlais des fonds des frontières. Comment plusieurs formes de frontières vont se créer à l'intérieur de la ville à partir des formes d'habiter, formes de travail et de circulation, en fait, des migrants à l'intérieur de l'espace de Tanger. Donc c'est la première chose. Que ce soit Boukhalef, Médina ou Bni Makkada, ces lieux représentent des espaces très spécifiques. Ils sont typiques par leur histoire, comme j'ai dit, en fait, qui marquent l'arrivée des migrants, mais aussi qui vont reconstruire, en fait, une nouvelle histoire à partir de l'arrivée de cette migration, qui va donner, en fait, lieu. C'est un peu cet espace-là, en fait, qu'on s'en complète. Là, vous avez Bni Makkada. Vous avez la Médina et vous avez Boukhalef. Voilà, ça vous donne un peu l'image de un quartier dortoir, quoi. C'est vraiment vide. Il n'y a plus rien. Vous avez 80% des appartements, ils sont inhabités. Et du coup, c'est assez intéressant de voir comment les migrants, quand ils arrivent, en fait, dans cet espace, ils approprient ce lieu-là. Et on va mettre en place, en fait, des nouvelles activités professionnelles faites par les migrants eux-mêmes. Des gens, par exemple, des restaurants à l'extérieur, sur les trottoirs, des restaurants faits par des femmes migrantes, pour manger, en fait, pour donner à manger aux subsahariens, parce qu'on commence à comprendre, en fait, la spécificité un peu de la nourriture. Comme il me disait, on arrive au Maroc, vous mangez les lentilles, nous on mange le riz. Et pour nous, c'est déjà un problème d'intégration. Hein, juste pour ça, en fait. Entre le riz et les lentilles, ça pose problème d'intégration. Voilà, on peut pas... C'est pour nous, c'est difficile. Juste pour ça, c'est difficile de s'intégrer. Les Marocains, en fait, on commence à voir émerger, notamment à Boukhalef, deux catégories des Marocains. Ceux qui rejettent complètement la présence des subsahariens et ceux qui vont intégrer la présence de subsahariens dans leur activité économique. Alors, des Marocains qui vont ouvrir des cafés ou des cybercafés, ils vont faire travailler des subsahariens parce que la clientèle est subsaharienne. Et du coup, en fait, ça va créer en fait une sorte de confrontation avec les Marocains, les locaux, en disant pourquoi vous faites travailler les subsahariens. Sauf que dans la logique en fait de l'employeur, c'est le seul moyen pour attirer une clientèle subsaharienne, parce que c'est eux, c'est elle qui fréquente son lieu en fait. Il dit bon, tous les Marocains ont 3G ou Internet. Bon, les subsahariens, ils habitent 5, 6, 10 dans un appartement. Ils doivent parler avec leur famille. Moi, je mets un cybercafé. Je vais pas mettre un Marocain là-bas ou quoi. Je préfère faire travailler deux Sénégalais ou un Camerounais, etc., ou trois, et ça leur permet d'avoir une activité professionnelle. Et moi, je deviens un entrepreneur dans le quartier, et du coup, en fait, le café, il travaille, quoi, mais vraiment. Et il te dit, mais pourquoi, c'est quoi les points de vue des Marocains? Il dit, bah, moi, je suis un investisseur. D'accord. Quand j'investis quelque chose, je dois voir qu'à faire le calcul de qu'est-ce que je vais gagner. Et moi, ces gens-là, ils me font gagner de l'argent. J'ai rien contre eux. Ça va être une catastrophe pour moi le jour où ils vont quitter le quartier. Et on voit en fait comment des stratégies économiques vont émerger dans ce quartier. On va voir par exemple un cordonnier camerounais, un autre cordonnier nigérian qui va aussi mettre en place en fait une activité juste parallèle, d'autres qui vont aller chercher des vêtements anciens pour les revendre dans le quartier. On va voir en fait toute une activité économique qui se crée dans ce quartier-là de Boukhalef, qui on ne trouve pas du tout en fait dans Ibn Makkada ni la Médina, où ce sont des espaces réservés essentiellement, la Médina et Ibn Makkada se sont réservés essentiellement à des Sénégalais. Et au point que quand on pose la question aux autres migrants, pourquoi vous ne partez pas travailler en fait dans Ibn Makkada ou Médina, la réponse est très simple, c'est un espace pour les Sénégalais. C'est les autres, en fait. Et les Sénégalais, en fait, quand on leur parle, ils disaient, ben, nous, on est mieux acceptés que les autres migrants parce que nous, on est musulmans. Et le rapport de Sénégal avec le Maroc est beaucoup plus ancien. C'est-à-dire, en fait, on voit, en fait, ces trois espaces, ils vont finir par créer, en fait, trois formes d'appartenance, trois formes de frontières, en fait, à l'intérieur même de la communauté subsaharienne. Donc, juste pour tout à l'heure, je critiquais la notion du Maghreb, de région MENA et tout. On finit même nous, en fait, par poser la même question, disons, est-ce que la catégorie subsaharienne est valable? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'appeler cette population, de la qualifier de subsaharienne? Qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte? Est-ce qu'il n'y a pas un autre terme pour qualifier cette population? Ce qui pose un problème d'ordre à la fois théorique et épistémologique, en fait, parce qu'on les a nommés comme ça. Pour nous, c'est plutôt une catégorie savante. Ça correspond à rien du point de vue de la dynamique sociale. C'est-à-dire, en fait, quand vous voyez un migrant, il ne vous parle pas en tant que subsaharien, il vous parle en tant que Camerounais, Nigérian, Sénégalais, Guénien, etc. Il ne vous dit pas, moi, je suis de subsaharien, quoi. Et du coup, entre la catégorie qu'on construit nous sur eux et comment eux représentent leur présence, on se retrouve en fait dans, c'est pas juste des notions ou des clés d'analyse, ça devient carrément un problème épistémologique, quoi. C'est comment lui-même il se définit. Est-ce que j'ai le droit de lui imposer une catégorie, à partir de cette catégorie, de commencer à l'analyser? C'est comme on fait en France, par exemple, le maghrébin. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, le maghrébin, en fin de compte? Ça n'a aucun sens. Les pays arabes, voyez, on donne des appellations que parfois, en fait, eux-mêmes, ils ne se retrouvent pas dedans parce que on faisait quand on finissait les entretiens ou même passe la journée avec eux, on pose toujours cette question-là. Qu'est-ce que c'est d'être un sub? Qu'est-ce que c'est, en fait, pour vous, quand vous entendez les subsahariens, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et on voit émerger tout de suite, en fait, différents points de vue entre des migrants extrêmement qualifiés, qui ont aussi cette catégorie savante et qui vont la monopoliser, voire utiliser, en fait, pour parler de leur parcours et le parcours des autres, en appropriant les discours des autres à travers une catégorie unique de subsahariens, et ceux qui te disent, mais ça veut dire quoi, subsaharien? C'est quoi exactement? Qu'est-ce que je veux dire, en fait? C'est de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, on est de l'Afrique de l'Ouest, et après? Oui, c'est vraiment ça vient rappeler en fait sur le plan méthodologique en fait la difficulté aujourd'hui qu'on trouve en sciences sociales à mettre en place une analyse qui respecte la définition que l'autre fait de lui-même en fait. L'étude, bon, juste ça c'est très rapide, l'étude en fait ne prend en aucun cas en fait les statuts réguliers, irréguliers, etc. Parce qu'on franchement on s'en fiche absolument en fait de ces catégories. Pour nous en fait, ce qui définit un migrant, c'est son parcours et pas le statut juridique. Est-ce qu'il est en situation régulière, en attente ou en attente des régularisations? On faisait juste un peu pour avoir une idée sur l'ensemble, mais en termes d'analyse de discours, on ne faisait aucune différence. Parce qu'on prend en considération quelque chose d'assez important, c'est ce que vous évoquez tout à l'heure derrière le débat, c'est que la catégorie juridique n'y limite pas et ne définit pas non plus la stratégie des migrants en fait, dans des formes d'appropriation d'un espace ou même de la circulation de travail. C'est-à-dire, en fait, les compétences individuelles en fait, des personnes vont au-delà de ce qu'en fait le cadre juridique va leur attribuer. Et du coup, en fait, on va trouver des migrants, par exemple, qui sont régularisés et qui ont beaucoup de mal à trouver un travail, et des migrants non régularisés qui n'arrêtent pas de travailler, qui circulent et qui ont un réseau énorme. Et du coup, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en fait, qu'est-ce que ça représente en fait les catégories juridiques en termes de la compréhension de l'accès à l'emploi? D'accord. Je parle ici d'un cas comme le cas du Maroc. Et pour moi, en fait, en France, ça ne change pas beaucoup de choses. Parce que j'ai vécu ça avec plein de personnes quand j'étais étudiant, je travaillais et tout. Et je voyais comment les migrants, en fait, notamment de l'Afrique du Nord ou l'Afrique noire, comment ils trouvaient des moyens de s'insérer dans... Bon, je me souviens, juste une anecdote, je travaillais avec Cortepaille, c'était en 2007, j'étais étudiant. Et un jour, on avait en fait le directeur. Bon, comme ça, il vient le voir. Il nous dit écoutez, les gars, vos papiers sont très bien, tout est réglé. On va avoir un contrôle de l'inspection de travail cet après-midi. D'accord. J'arrive l'après-midi, moi, au travail. On est genre 15 serveurs dans le restaurant, en tout cas, ceux qui font le service, ceux qui font la plonge et tout. Je me retrouve, moi et un autre Marocain. Je dis au directeur, ils sont où les autres? Il me dit, je sais pas. Et en fait, ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et j'ai appris sur le tas que tous les autres, ils avaient tous des faux papiers. Mariés, avec une famille, etc. Tous, ils avaient des faux papiers. Il y a ceux qui travaillent avec les papiers de leur sœur, de cousins. D'accord? C'est des faux papiers dans le sens où, en fait, c'est pas les leurs. C'est des vrais papiers. D'accord? Sauf que le cousin est déclaré au chômage. Ce sont toutes des stratégies, quoi. C'est génial. Sur 15 personnes, il n'y avait que 2 qui étaient vraiment en situation régulière. Dans une chaîne, hein. C'est Cortepaille. C'est quand même une chaîne qui n'arrivait même pas à contrôler en fait, un circuit de travail.
Il y a des chercheurs
qui
ne cherchent pas à
contrôler. Oui, ça on le sait. Parce qu'en fait, le travail qu'on faisait dans ce restaurant, on avait même beaucoup de problèmes avec les clients. Quand ils arrivaient, ils nous disaient « Est-ce qu'il n'y a pas de blanc ici ?» Parce qu'il n'y avait que nous, en fait. Il n'y avait que des Arabes et des Noirs qui faisaient ce métier, quoi. Le restaurant, on était peuplé. Sauf le gérant qui était blanc, on était tous, en fait, l'Afrique. Parce qu'en fait, on avait des heures. On commençait à 9h, on finissait à 11h30 et tout. Chacun faisait pour des raisons. Nous, on faisait ça parce qu'on était étudiants. Il fallait trouver un moyen de payer le loyer et tout. Et les autres, ils faisaient ça pour d'autres raisons. Pour moi, c'est pas très différent, en fait, défendre les stratégies qu'on trouve, par exemple, au Maroc. Sauf que la seule différence, c'est au niveau institutionnel. C'est au niveau institutionnel, on n'a pas cette réglementation ficelée comme en France. Et on n'a pas de contrôle. Justement, en fait, par rapport à l'accès au marché d'emploi, d'une part, mais d'autre part aussi, on a 45% de l'économie du Maroc, c'est de l'informel. Et c'est probablement ça qui permet aussi de résister aux différentes crises économiques. Et en fait, quand vous avez de l'économie informelle, ça permet en fait de faire éjecter pas mal d'argent, y compris par exemple l'argent du cannabis, de blanchiment d'argent, etc., dans l'économie formelle, dans les moments de crise. Et on voit bien, en fait, en plus, le système est ficelé et fermé en termes de et qui définit bien les frontières entre le formel et l'informel. En plus, ce système est beaucoup plus susceptible de tomber dans la crise. Et en plus, on laisse les frontières floues entre le formel et l'informel. Ça permet toujours, en fait, de résister, de passer de l'un à l'autre très facilement, en fait, et de résister aux formes de crise. Et voilà, ça, moi, je travaille sur ça parce que je travaille essentiellement sur le domaine de la drogue. Et du coup, je connais un peu ce secteur, en fait, de formel et d'informel. Et quand on le voit, en fait, au sein de l'immigration, on voit très bien comment l'immigrant, en fait, notamment les Sénégalais, c'est ça qui est très intéressant, ils vont mobiliser, en fait, des appartenances communes avec les Marocains, c'est-à-dire, en fait, l'identité, l'islam, machin et tout. Mais ils vont aussi mobiliser, en fait, une compétence qu'ils ont eux-mêmes développée dans leur pays d'origine, qui est, en fait, le travail informel. Ils sont tous passés. Et ils vont les réinvestir, en fait, dans l'espace marocain. Et comme il me disait un migrant, en fait, il y a un très bon travail, c'est un témoignage, en fait, qui est écrit d'un Sénégalais qui a vécu au Maroc et que j'ai rencontré. Il a écrit un petit bouquin de témoignage de son vécu au Maroc. Et il me disait, en fait, là, le grand problème des migrants au Maroc, en fait, on discute. Et je lui dis, tu sais, ces migrants avec lesquels je passe mon temps, et notamment les Nigérians, parce que c'est les plus discriminés, et les Camerounais, parce qu'ils sont vachement dans des circuits de drogue, de prostitution, etc. Je lui dis, en fait, quand je pars en Europe, je les trouve, en fait, dans la même situation de précarité. Il fait la manche ici, il fait la manche en Italie, en Espagne et tout. Je lui dis, quasiment, ça ne change pas leur parcours. Il m'a dit, on le sait, c'est pour ça qu'on ne demande jamais, en fait, quand ils partent, on ne leur demande jamais de nous donner des nouvelles. Parce qu'en fait, ça nous permet à nous d'entretenir le rêve de départ, ici. Ça ne fait pas nous parler de... Et il me disait, je lui dis, mais pourquoi, à ton avis? Il me disait, c'est normal. Et il me disait, regarde, c'est très simple. Les Sénégalais, par rapport à la région de là où ils viennent, ils vont s'insérer dans l'économie locale. Parce que, en plus, ils ont l'habitude d'être insérés dans des économies informelles dans leur pays d'origine, dans leur village, dans leur ville, etc. Quand ils arrivent au Maroc, c'est très facile pour eux, en fait, de s'insérer dans l'économie informelle, qui est aussi une économie extrêmement importante au Maroc. Il me dit, et du coup, le départ en Europe, même quand ils partent en Europe, il me dit, tu pars en Europe, tous les Sénégalais sont des vendeurs ambulants, parce qu'ils ne peuvent pas, ils ne savent pas travailler, en fait, fournir un travail à la chaîne, avec un salaire à la fin du mois. Il ne sait pas faire ça. C'est pas parce qu'il est incapable, il veut pas. C'est qu'il sait pas le faire. C'est un commerçant. Il est comme ça. Il prend le risque. Et le risque, il est à la fois juridique, économique, etc. Et il me dit, quand tu prends une grande catégorie, par exemple les Nigérians et les Camerounais, ils font pas ça parce qu'en fait, ils viennent sans aucune compétence au Maroc. Et du coup, en fait, ils sont confrontés directement au chômage, au racisme et l'exclusion. Et il m'expliquait, en fait, de cette manière, de ça, avant d'arriver, moi, à Tanger, pour essayer de contrôler un peu ce circuit. Et quand on fait le travail avec les migrants, c'est super intéressant. Après, on se rend compte que c'est beaucoup plus nuancé que l'image qu'on a, nous, de l'extérieur sur l'immigration. C'est ce qu'on disait hier. On est en train de victimiser les migrants et de... un peu de stigmatiser parfois les États par rapport à leur politique. Et c'est beaucoup plus nuancé que ça. Certains migrants qui me disaient, moi, j'ai aucun intérêt à être régularisé au Maroc parce que je suis très bien comme ça. Moi, je fais 7 000 dirhams par mois. C'est l'équivalent de 600-700 euros par mois. Avec mon commerce, ça me permet d'envoyer de l'argent au pays. Je fais des économies là-bas et je vais revenir dans 5-6 ans pour faire ouvrir une boutique là-bas. Et on voit que c'est une économie qui émerge. Je suis allé voir, en fait, les policiers des services d'immigration à Tanger, et ils me disaient la même chose. Ils me disaient, nous, quand on les arrête, on fait des enquêtes et on a fait un chiffre moyen, et on sait même qu'ils ne mentent. Le chiffre moyen, leur chiffre d'affaires moyen, en fait, par personne, c'est de 500 euros par mois. Et je dis, mais comment ça? Il me dit, mais c'est pas eux, c'est qu'en fait, nous, on intercepte tout le circuit de commerce, en fait, entre l'Afrique de l'Ouest et le Maroc, où il y a à la fois des subsahariens et des Marocains. C'est un secteur extrêmement bien organisé, d'accord, et qui se sont centrés dans des villes. Alors, Marrakech, Agadir, Marrakech, Rabat, Tanger. C'est vraiment l'axe des villes économiques et politiques qui leur permet, et touristiques, qui leur permet, en fait, de créer une activité d'emploi extrêmement importante. Et Tanger est là, en fait, parce que c'est une ville où où il y a aussi une grande communauté subsaharienne, c'est-à-dire en fait l'économie subsaharienne va suivre en fait le circuit même d'immigration subsaharienne. Parce que les clients, ce sont aussi des subsahariens, alors il faut les suivre. On ne vend pas juste des affaires. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas, même dans la dernière fois, on faisait une enquête au Moyen Atlas. Je rencontre genre 7 ou 8 migrants sénégalais. C'est des commerçants dans des marchés ruraux. Et avec des commerces à crédit, je vous donne un produit, je reviens le marché prochain, tu me payes, etc. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. C'est-à-dire, en fait, contrairement aux autres formes d'immigration, les Sénégalais, ils n'ont pas approprié uniquement un espace, ils ont approprié le Maroc. Ça devient, en fait, un circuit extrêmement important avec un réseau de fournisseurs, où il y a aussi dedans des Marocains. C'est-à-dire, en fait, c'est pour ça, tout à l'heure, je disais, en fait, les stratégies migratoires, elles ne sont pas liées à des modèles qu'on construit, nous, de point de vue théorique, ou même des chiffres pour comprendre l'immigration, mais c'est dans la dynamique que ça permet d'émerger elle-même, qui ça nous permet, en fin de compte, de comprendre les différentes formes de frontières, de mobilité, de travail, etc., que l'immigration peut créer pour elle-même, parce qu'un migrant arrive avec des compétences qui lui permettent aussi de s'insérer au sein d'une économie ou non. Qui lui permet de trouver une place au sein d'un groupe social. On a sous-estimé en fait ces compétences chez les migrants, et on les a perçus en fait soit ce fond de chiffres, soit en tant que victimes en fait. Et on n'a jamais essayé de trouver le juste milieu dans ce regard-là beaucoup plus complexe d'immigration. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le regard aussi qu'on va avoir par rapport à cette réalité. Ces migrants aussi vont partager des moments extrêmement fermés entre eux et entre la population marocaine. Vous savez pourquoi Tanger aussi? Parce que c'est une ville où ça permet, en fait, c'est une ville de départ d'immigration, que ce soit marocaine ou subsaharienne. Et du coup, quand ils sont expulsés, les migrants, quand l'Espagne expulse en fait les migrants, elle expulse à la fois les Marocains et les subsahariens. Et du coup, en fait, ça permet par la suite, en fait, à ces migrants-là, au-delà de leur appartenance nationale, de reconstruire en fait une identité unique. Alors, par exemple, dans un café au Médina, où on fume du shit, etc., le café est peuplé essentiellement des Marocains et des subsahariens qui ont déjà tenté une migration en Espagne et qui ont retrouvé en fait cet espace pour raconter leur histoire commune. C'est-à-dire, en fait, la tentative de traverser a permis par la suite, en fait, de reconstruire une identité commune des migrants au-delà de leur appartenance nationale, y compris des Marocains, qui racontent, c'est l'histoire, par exemple, de Hassan et Abdelrahman. Hassan est un Marocain, Abdelrahman est un Sénégalais, et qui me racontent en fait leur histoire et comment ils se sont retrouvés en Espagne tous les deux, capturés tous les deux à Cadiz par les autorités espagnoles, qui ont fait de la prison ensemble en Espagne et qui sont renvoyés par la suite au Maroc. Et que Hassan, il me dit, bon, moi je dépanne Abdallah quand il a besoin, et lui il fait la même chose, quoi. On est des frères. C'est en fait comment la traversée des frontières et le retour va permettre en fait de créer en fait cette identité de frère. En fait, on partage quelque chose de ensemble. Un autre, Charles, qui est un ancien, c'est intéressant, c'est Charles aussi qui me parle. Parce que là, il y a 30 entretiens très approfondis des ethnographies avec plein de personnes, 30 personnes. Charles qui me parle, Charles, c'est un ancien joueur de basket avec l'équipe de Meknès, et qui parle par la suite en fait pour une expérience professionnelle à Marseille, et qui joue avec l'équipe de basket de Marseille, et qui raconte comment il a eu une copine blanche, etc., et qui vivait très bien à Marseille. C'est un Camerounais, et que voilà, selon lui, il a trop déconné, et en fait on l'a expulsé à l'étranger, et qu'au moment en fait de l'expulser, c'est lui-même qui a choisi d'être à Tanger. Ça lui dit, bon, ne me ramenez pas au Cameroun, je vais être à Tanger. Et quand je lui dis en fait pourquoi Tanger, et il me dit ça me rappelle Marseille. Et pour moi, en fait, ça me permet d'entretenir le rapport avec l'Europe, parce que je suis aux frontières. Et une fois l'exclusion, en fait, là, de 2 ans, parce qu'il a une punition de 2 ans, en fait, d'interdiction de rentrer dans le territoire de Schengen, il me dit, j'attends juste les 2 ans pour repartir par la suite. Il s'installe au Médina. Je lui dis, pourquoi Médina? Et après, il me dit, la Médina est un bon lieu de rencontre. Il donne l'exemple de plein de copains à lui qui sont partis de Tanger avec un visa. C'est ça qui est intéressant. Parce que Tanger, c'est une ville, certes frontière, mais on peut partir avec un visa. Il faut juste faire une bonne rencontre avec une bonne blanche qui vient en touriste à Tanger. C'est-à-dire, en fait, on voit toutes les stratégies. En fait, il y a ceux qui vont investir la ville de point de vue économique, les autres qui vont l'investir de point de vue émotionnel, relationnel et tout, pour trouver un moyen de partir. Et ça, je l'ai vécu parce que à ce moment-là, j'ai rencontré un chercheur allemand qui était avec ses étudiantes allemandes à Tanger pour un terrain. Et j'ai assisté à la scène. C'était assez important, quoi, de voir toutes les formes d'interaction et tout. C'est vraiment d'entretenir. Et je voyais, en fait, quand on parlait à moi et quand on parle à un Européen, c'était assez intéressant. C'est quand on parle à un Européen, tout de suite, en fait, on change le registre de discours et le Maroc devient un pays infernal pour les migrants, le racisme, le machin et tout. Voilà, pour attirer un peu de solidarité, de compassion de la part de l'occidental. Mais quand il parle marocain, c'est un autre discours. Le Maroc, c'est même les Marocains, ils sont dans la merde et tout. Il faut changer de pays, c'est un autre registre, quoi. Vraiment, et ce sont des stratégies de discours qui vont se développer, qui vont changer, en fait, par rapport à l'interlocuteur, en fait, celui qui est en face. Comment ces limites, en fait, se construisent. Après, on voit ici ce choix, en fait, de Tanger. On a essayé juste de faire ça parce que quand on présentait le projet, on a essayé de faire ça pour donner plus d'images un peu sur la ville de Tanger en termes de choix. Bon, il y a 7%. En fait, moi j'ai fait 30, une autre collègue, en fait, qui a fait 30 entretiens, ça fait 60, et on a fait 30 entretiens avec des Espagnols, c'est-à-dire, en fait, ce que vous voyez là, ça représente 60 personnes, en fait. Bon, ça n'a pas, en fait, une vocation quantitative, ça. C'est juste pour avoir une idée en termes de choix de Tanger, pourquoi on est venu, en fait, à Tanger. Alors, vous avez 7%, en fait, qui choisissent là. C'est une ville qui considère, en fait, Tanger comme une ville frontière. 29 qui... c'est une métropole qui nous permet aussi de travailler. Ça, c'est essentiellement les Sénégalais qui vont répondre à ça. Et 64%, c'est une ville internationale. Et personnellement, j'avais fait avant, en 2012-2013...
C'est pas des chiffres... 64%...
C'est une ville internationale, oui. Pardon. C'est plutôt frontière. Ouais. 7%, c'est une ville frontière. Mais moi, cette enquête, en fait, j'ai commencé à travailler sur l'immigration subsaharienne depuis 2012. Au début, en fait, je ne travaillais pas avec les subsahariens, j'ai travaillé avec les Marocains, sur la catégorie de Azzi et Gaouri. Alors, je m'explique. Azzi, c'est noir. C'est le terme que les Marocains utilisent pour dire noir. Et Gaouri, c'est l'occidental, c'est le blanc. Ouais, et comment les Marocains représentent ces deux catégories, en fait, dans leur quotidien. J'avais fait, en fait, une enquête de Tanger à Agadir, en fait, ça a pris cette ville. Quand on a choisi par la suite de revenir sur Tanger pour travailler sur l'immigration subsaharienne, j'ai appris et travaillé directement avec les subsahariens. Ça a été super intéressant pour moi parce que ça a complètement cassé les a priori que j'avais moi-même, en fait, sur les subsahariens. Et tout à coup, je rencontre des artistes, des professionnels de sport, des cuisiniers, des informaticiens, des ingénieurs. Ouais, il y avait vraiment... Ça a cassé un peu même le sens commun que je partageais avec plein de gens sur cette situation de précarité à tous les niveaux qu'on trouve chez les migrants en général. C'est-à-dire, en fait, ils ne sont pas juste précaires de point de vue économique, mais aussi culturel, social et tout. C'est comme ça qu'on les perçoit, quoi. Ça permet beaucoup plus facilement de les mettre dans la catégorie victime. Or, en fait, à l'intérieur d'eux, à l'intérieur de cette communauté, on voit réellement, en fait, des formes de distinction sociale qui sont extrêmement importantes. Et la plupart des enquêtés, par exemple, avec lesquels on a travaillé, sont issus de la classe moyenne. Ils ont tous en fait eu une vie professionnelle avant d'arriver au Maroc. C'est-à-dire, en fin de compte, ceux qui partent, ce sont les meilleurs. C'est un peu des classiques. Oui, je veux un truc. Après, le quartier de résidence, etc. Et là, bon, je sais pas ça que je vais partager avec vous, mais plutôt la question de... Et ça, c'est plutôt voilà, l'accès à l'emploi. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ça, mobilité dans l'espace de Tanger. Voilà, c'est justement ça, en fait, qui m'intéressait à partager avec vous. Bon, là, on a essayé de montrer à travers ce schéma les différents espaces en fait, de mobilité, parce que pour nous, c'est extrêmement important. Dans le sens où les gens de Boukhalef, ils vont tout éviter, en fait, pour essayer d'y aller au centre-ville. Parce que pour eux, le centre-ville, c'est un espace dans lequel on s'expose. Et on expose aussi la précarité, en fait, de l'immigration. Et alors, on essaie de faire tout, en fait, pour maintenir une image assez positive, en fait, de l'immigration subsaharienne. Essentiellement parce qu'on est dans une ville internationale, avec beaucoup de tourisme, etc. Et on ne veut pas attirer, en fait, l'attention ni des médias, ni des journaux internationaux qui parlent, en fait, de la situation d'immigration. Au point que, par exemple, on considère que l'immigration espagnole à Tanger constitue une menace pour l'immigration subsaharienne parce qu'il commence à attirer les attentions de tout le monde sur Tanger. Tout le monde focalise sur Tanger comme ville d'immigration des Européens, etc. Ils disent, OK, bah, ça veut dire s'il vient pour les Européens, ils vont finir par ne voir nous. D'accord. Alors, on va essayer de restreindre en fait l'espace. Et l'espace de mobilité devient en fait l'espace de travail. C'est-à-dire là, on travaille, là, on va bouger. On ne va pas ailleurs. Et les frontières, ils vont se creuser de plus en plus en fait entre, par exemple, Nimakada, Boukhalef et Médina. Et de point, par exemple, que le départ, j'ai travaillé avec pas mal de gens, 3 ou 4 personnes, par exemple, qui habitaient et qui travaillaient à Bnimakada. Et ils ont pris la décision de changer de l'espace et de rentrer habiter en ville et de travailler avec des associations en ville. Et pour eux, c'est une première migration qu'ils ont fait à l'intérieur de la ville de Tanger, de partir de Boukhalef au Médina. Et quand on pose la question en fait, aux migrants de Boukhalef, ils considèrent ça comme une trahison à la communauté. Et c'est parce qu'en fait, c'est un choix individuel qui est fait par la personne au détriment de la communauté, en fait. C'est-à-dire, en fait, ce sont, comme il me disait un de mes interlocuteurs, il me disait, ce sont les meilleurs éléments, malheureusement, qui vont partir vivre et travailler au Médina et qu'on a besoin d'eux. Ce sont des frères, nous, on a besoin de nos frères. Et quand on va travailler avec eux, ils disent en fait que les frontières de Boukhalef sont extrêmement fermées. Et moi, je ne suis pas venu au Maroc pour créer en fait une deuxième frontière. Je suis venu au Maroc pour trouver des moyens de survie, voire de vivre par la suite en fait. Et du coup, en fait, l'espace de le centre-ville et la Médina devient des véritables espaces de vie et de promotion sociale. Et du coup, on rompt carrément le lien. Alors, quand je suis au Médina et que je repars à Boukhalef et que je leur dise, par exemple, j'ai rencontré Eric, tout de suite, en fait, j'ai 3-4 secondes de silence. Personne ne me parle. De genre, et après, on est très méfiant et on me dit tout de suite, il t'a dit quoi? Il t'a pas dit pourquoi il est parti. D'une manière un peu de genre, c'est un traître, quoi. Il a quitté la communauté pour reconstruire, en fait, un destin individuel. C'est-à-dire, en fait, les formes d'intégration eux-mêmes deviennent... les voies d'intégration deviennent, en fait, passent plutôt à travers la séparation de la communauté. Non. Si, à partir du moment où vous vous insérez trop dans la communauté, vous fermez vous-même, en fait, dans une sorte, en fait, de désintégration par rapport à la communauté marocaine. Mais cette intégration dans la communauté est marquée aussi par la spatialité. Bon, ici, en fait, je ne dis rien d'exceptionnel parce qu'on peut le remarquer aussi en France. Je donne juste l'exemple de la Courneuve à Paris. J'ai une amie psychologue là-bas. Elle m'a dit, au bout de 10 ans, j'ai plus vu des Maghrébins. Ils sont tous partis. Et c'est une promotion sociale parce que c'est un mélange extrêmement, c'était un espace extrêmement mélangé avec une population d'Afrique noire et maghrébin. Et les maghrébins, en plus, en fait, individuellement, à chaque fois on arrive à monter dans l'ascenseur social, le premier choix qu'on fait, c'est de quitter le quartier de la Courneuve. Il ne faut surtout pas l'avoir l'adresse, en fait, ni personnelle, ni professionnelle. Et du coup, il m'a dit, en fait, l'école là où il travaille, il m'a dit qu'il n'y a que des Africains noirs. C'est hallucinant. Il me dit, au bout de 10 ans, il n'y a plus de maghrébins. C'est devenu un signe d'intégration, de partir de ce quartier. Et, et là, ce sont des schémas qu'on trouve exactement, en fait, qui se reproduisent à Tanger, mais dans un espace beaucoup plus large. Pas dans un quartier, mais dans un espace beaucoup plus large où la ville devient elle-même un espace de mobilité, d'intégration d'un quartier à l'autre. Voilà, je m'arrête là, je pense que...
Merci beaucoup.
Tu peux demander.
Là aussi, une présentation alors bien différente, on le voit, une approche différente, et puis donc sur le terrain de Tanger, et en plus des recherches qui s'inscrivent dans un renouveau de la recherche marocaine et de la recherche sur la migration au Maroc, où on voit que, et ça peut expliquer un petit peu les réactions des autorités marocaines, on voit qu'aujourd'hui, justement, il y a davantage de complexité et de nuances qui peuvent être mises en lumière, analysées, et notamment de lier les différentes migrations. Plus seulement cette migration subsaharienne qui avait été tout d'un coup rendue visible, mais liée migration subsaharienne et migration européenne, puisque tu as parlé de deux migrations, mais aussi migration marocaine, puisque tu en as parlé également. Finalement, on a ces trois migrations qui s'imbriquent à Tanger, et sur lesquelles, finalement, on peut analyser des problématiques transversales. Alors, tu as soulevé plein de points très intéressants, justement, sur ce qu'on peut entendre par intégration. Et c'est pour ça que j'avais mis entre guillemets. Bon, déjà, parce qu'on est en France et qu'on sait que le terme intégration a eu diverses connotations et divers usages politiques. Ce sera peut-être une question plus tard qui sera partagée, qui sera transversale à vos deux présentations, revenir sur la question de l'intégration. Je pense que c'est important. Et sur le lien entre recherche et décision politique, mais on va peut-être commencer par des questions éventuelles à la présentation seule de Ralid.
Bonjour et bonjour.
Vous avez reçu l'exemplaire?
Non, pas encore.
C'est un test, oui. Non. Et bon, je travaille sur la migration des ouvriers agricoles au Maroc, plutôt maintenant migration interne vers la région de Sousse. Et j'ai fait ma thèse sur la féminisation du travail dans le secteur de la fraise au Maroc. Mais en tout cas, mes questions sont très. Merci pour l'intervention. Assez ponctuel lié à ton intervention. Je me demandais un peu sur quand tu as dit que le statut juridique, ça n'a pas d'importance. On voit bien pourquoi pour le marché de l'emploi. Et je me demandais à cet égard au rapport avec les forces de sécurité, notamment la police, des immigrants subsahariens, surtout quand tu disais qu'on essaye de s'éloigner du centre-ville, par exemple, pour ne pas être trop visible. J'imagine que là, il y a un rôle aussi de la police par rapport à l'usage de l'espace des immigrants. Avec ces questions très intéressantes de squat à Boukhalef, de l'escouade des appartements, non, qu'on entre dans des appartements. Je n'ai pas trop compris si ce sont des appartements qui appartiennent à l'entreprise, aux boîtes de construction ou à Marocains qui habitent à l'étranger, mais est-ce qu'il y a un laisser-faire ou comment ça se passe avec les autorités? Aussi, les forces de l'ordre, notamment. Et aussi, une deuxième question sur comment il y avait une majorité de migrants qui réfléchissaient à la ville comme une ville frontière. J'imagine que là, je voulais savoir un peu les motivations pour les différentes communautés aussi, de rester ou de partir, ou peut-être c'est un mélange, si c'est abandonné l'idée de partir ou pas, si ça change un peu avec les communautés ethniques. Et oui, ça m'a fait réfléchir un peu aussi aux relations entre les différentes communautés, parce qu'on entend toujours cet stéréotype des Nigériens, par exemple, qui sont parmi les autres, je ne sais pas si parmi les autres migrants, et voir un peu quel était le rapport et quelles sont les autres insertions professionnelles qui ne sont pas les auto-emplois aussi pour les migrants.
Attends, peut-être est-ce qu'il y a une autre question? Alors, ok. Alors, attends. Dans ce cas-là, on va peut-être. Sauf si c'était lié à. À Rally, d'accord. Ok. Non, parfait. Donc, on poursuit.
La première. Bon, qui parle souvent de. On n'est pas venu au Maroc, etc. Comme partie du discours dans les centres chrétiens. Mais on le sait que la plupart, ils ne sont pas venus au Maroc. Ils sont passés par le Maroc, ils ont été coincés au Maroc. Et est-ce que ça, comment est-ce que et ça peut se refléter ou pas dans leur discours? Parce que dans les discours d'intégration, bien sûr, il y a aussi un intérêt à montrer qu'ils sont pas là de passage. Et c'est normal, c'est légitime. Comment est-ce que vous savez traiter cette question? Parce que l'analyse des discours, ça peut être trompeur. Première question. Deuxième question, tu n'y as même pas une seule fois mentionné la politique d'intégration au Maroc, la stratégie nationale d'intégration et asile et d'immigration et asile. Est-ce que tu considères que ça n'a pas eu aucun impact quelconque dans l'intégration des Marocains, des subsahariens au Maroc, ou simplement tu as omis ça, ou quel rôle ça joue? Et finalement, un peu lié avec la question de Juana, tu n'as même pas non plus mentionné la frontière physique en réalité. Tout au début, mais après, ça n'existait pas. Moi, je me faisais la même question. Pourquoi est-ce qu'ils préfèrent une ville frontière? C'est parce que c'est plus facile de partir, c'est parce qu'il y a plus d'opportunités d'intégration liées au tourisme ou au commerce, ou je ne sais pas quoi. Mais est-ce que. Je pense que c'est clair que dans les 10 dernières années, il y a une fermeture plus claire de la frontière pour certains groupes, notamment les subsahariennes. Est-ce que ça a eu un impact aussi dans l'intégration?
Tout à l'heure, en fait, quand j'ai montré les macarons et tout, c'est par exemple à 64% des migrants qui ont choisi Tanger parce que c'est une ville frontière essentiellement. Et bon, j'ai pas cité parce que
c'est parce que c'est une ville frontière
avec l'Europe. Non, vers l'Europe.
Non,
après en fait, c'est pour ça en fait que moi je parlais à la fois des frontières imaginaires et des frontières physiques. Dans le sens en fait comment les migrants dans l'interaction des formes de vie quotidiennes ont construit des frontières entre quartiers et communautés. À partir de confrontations au quotidien, ou parfois pas de confrontation, mais d'éloignement, c'est-à-dire en fait on communique pas, chacun en fait reste dans ses a priori, on s'éloigne, on fait des frontières un peu par rapport les Marocains, par rapport aux migrants, les migrants à l'intérieur d'eux, etc. Et après, mais la majorité sont venus essentiellement pour Tanger parce que c'est une ville frontière. Ça, par exemple, il y a un entretien avec un Camerounais réfugié qui me disait qui me disait Tanger est la ville la plus proche de l'Espagne. C'était une étape. Après, en fait, bon, il est régulier parce que c'est assez intéressant. Il parle dans le passé, quoi. C'était une étape, une dernière pour passer de l'autre côté. Je suis un réfugié politique. Ma femme est en France. J'ai envoyé ma famille avec elle et n'a rien à faire ici. J'ai passé beaucoup de temps à Rabat. Il fait beau à vivre là-bas, mais j'ai choisi de venir à Tanger pour être proche des frères. J'ai envie de faire changer les choses. Je suis content avec je suis en contact avec des organismes internationaux. C'est-à-dire, en fait, c'est un réfugié qui se régularise, qui envoie toute sa famille en France et que lui, il n'arrive pas à partir, mais il fait la demande de la régularisation et il devient, en fait, un des porteurs de problèmes d'immigrants subsahariens au Maroc. Il se déplace à Tanger et il vit avec. Donc, ça, c'est juste un exemple. Mais Tanger, c'est une ville frontière d'abord. On arrive à Tanger. Mais quand je dis d'abord, quand alors j'ai dit 65%, c'est parce qu'en fait, vous avez une grande partie de la communauté essentiellement sénégalaise. Ils ne sont pas venus au Maroc pour partir en Europe. Ils sont venus dans des réseaux de commerce. Et ça ne les intéresse pas du tout, en fait, de passer de l'autre côté. D'accord ? Ça ne les intéresse pas du tout, dans le sens, en fait, que ceux qui partent de l'autre côté, ils ont déjà un réseau. D'accord. Comme il m'a dit un Sénégalais, il m'a dit de toute façon, ce que je vais faire ici, je vais le faire en Espagne. Je le fais ici, c'est mieux. Je paye. Il commence à calculer. Il dit en fait, les copains, ils payent 500 euros en Espagne. Je paye 100 euros de loyer ici. D'accord. Tant de la tomate, ça coûte tant. En Espagne, ça va me coûter tant. D'accord. Il commence à calculer. Et en fin de compte, quand il fait le calcul, il trouve que pour lui, c'est beaucoup plus rentable de rester au Maroc que de partir en Europe. Parce qu'il y a tout le voyage à payer. Et il te dit, ça me fait combien d'années de travail pour rentabiliser un peu le voyage. Ça, c'est les Sénégalais. Parce qu'ils sont dans une autre stratégie. Pourquoi les Sénégalais? Parce qu'il n'y a pas de visa. Ils ont la libre circulation entre le Maroc et le Sénégal. C'est-à-dire qu'ils peuvent partir à n'importe quel moment et revenir par la suite. Parce qu'il y a les accords de travail avec le Sénégal. Même s'ils trouvent un travail, même s'ils peuvent créer une entreprise privée au Maroc, ils peuvent la créer facilement en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire, en fait, le cadre juridique leur permet facilement, en fait, une insertion. Pourquoi je n'ai pas pris, en fait, le cadre de la politique migratoire? Pour une simple raison, c'est qu'en fait, il y a énormément de travaux récemment sur la politique migratoire, il y a des rapports, etc. Et nous, on ne voulait pas noyer, en fait, notre étude dans le même discours, en fait. On voulait présenter quelque chose de différent. Et on n'aurait pas répété, en fait, pour dire, oui, la politique migratoire ne sert à rien, parce que ce n'est pas, pour nous, en fait, là, une politique, elle ne peut être réelle que dans la pratique quotidienne des migrants. Mais si vous pouvez faire les meilleures lois du monde, en fait, pour le contrôle, mais... Si dans la pratique sociale, ça se passe autrement, bah, ça reste inefficace. Quoi.
Oui, mais toi-même, tu viens de montrer que le cadre juridique pour les Sénégalais a un impact très important.
Oui, mais justement, mais j'arrive. Mais non, mais c'est différent parce que les Sénégalais investissent un cadre qui est à la fois historique et politique. C'est-à-dire, ils sont déjà, quand ils viennent au Maroc, ils viennent déjà avec cette mentalité, en fait. Quand vous arrivez en tant que migrant, moi, je l'ai vécu en France en tant que migrant. En fait, quand j'ai commencé à travailler sur l'immigration, moi-même, j'étais migrant. En fait. Moi, je vous donne l'exemple. Moi, j'étais en France, j'étais parmi mes copains, le seul qui ne paye pas des frais d'inscription à la fac, parce que j'ai compris comment ça fonctionne. D'accord. Je ne payais pas un seul sou. Et mes copains ils me disaient, comment tu fais? Je dis, bah, voilà ce qu'il faut faire. Il faut aller faire ça, ceci, cela, et vous ne payez pas de frais d'inscription à l'après. Ils n'arrivaient pas à faire ça. J'ai fini 4 ans par la suite, j'ai demandé la nationalité française. Tous mes copains, en fait, leur ont rejeté la demande. Sauf moi, j'étais accepté. Je dis, mais comment tu fais? Je dis, ben voilà, j'ai fait ceci, cela. J'ai allé voir les politiciens pour soutenir mon dossier et tout. Et à un moment, il y a un copain qui m'appelle. Il me dit, en fait, parmi nous, parmi tous ceux qui sont venus du Maroc ensemble pour faire des études, tu es le seul qui a compris comment ça fonctionne, le système français. D'accord. Et au début, ouais, voilà. Voilà, et ça, le migrant, quand ils arrivent dans un pays, c'est extrêmement important de comprendre, en fait. C'est-à-dire, il y a le contact social. Je suis devenu ami avec une maire. Je suis devenu ami avec un député. Du coup, tout de suite, en fait, j'avais tous ces contacts. Même pour ma demande de nationalité française, je n'ai même pas eu d'enquête. Enfin, j'ai le ministre, en fait, qui est le premier, à l'époque Sarkozy, qui m'envoie la lettre en disant... On a reçu une demande de soutien de votre demande de nationalité. On va accorder une attention particulière à votre demande. À l'époque de Sarkozy et des copains. Et par la suite, en fait, j'ai des copains qui portaient plainte au tribunal en France. Et je leur disais, voilà ce qu'il faut faire. C'est un Tunisien, une amie tunisienne et un artiste marocain, un ami, qui est un acteur. Et ils finissent par avoir la nationalité. Ils me disent, tu imagines, on m'a rejeté la demande 2 fois. Et quand tu m'as donné de tuer comment faire, ça fonctionnait. L'avocat, il me dit, ton dossier, tu ne penses même pas. Quoi. D'accord. C'est fini. C'est pour ça, en fait, je me suis un peu projeté dans le parcours des migrants. Mmh. D'accord. Dans le sens un peu de comprendre que les migrants sénégalais, ils ne sont pas tous, en fait, informés. Ils n'ont pas tous, en fait, un bagage culturel. Mais quand ils s'insèrent, en fait, dans un réseau, la force d'immigration sénégalaise au Maroc, c'est que tu es capté, ou plutôt tu es adopté par le groupe, par la communauté. Vous êtes vite inséré, en fait, dans un circuit d'information qui vous permet tout de suite, en fait, de saisir les différentes occasions qui existent au pays. Quand vous prenez un Camerounais ou un Nigérian qui ne parle pas français, qui n'est pas musulman, d'accord, et qui s'appelle Jacques ou David, d'accord, ça fait... Et les Noirs, d'accord, en fait, il a tous les éléments de l'extériorité. D'accord. Il a tout. Il a tous les moyens de stigmate social. D'accord. C'est ce qu'on appelle, en fait, des objets de stigmatisation. Genre, il a tout. D'accord. Le Sénégalais, il a des moyens de jouer sur le stigmate et de le valoriser. Et du coup, en fait, les Sénégalais font le pèlerinage au Maroc à la Zaouia Tijaniya, la confrérie Tijaniya de Fès. C'est une grosse communauté, etc. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, et du coup, pour répondre aux deux questions, et du coup, à l'intérieur même des subsahariens, moi, je me souviens, c'était hyper intéressant, quand j'ai dit à des copains qui sont devenus par la suite des copains, dit, je vais aller à Misnana, c'est un quartier à Tanger, pour travailler là-bas avec les migrants, tout de suite. Mais tout de suite, ils m'ont dit, mais non, mais tu es fou, tu ne peux pas partir là-bas. Je dis, mais pourquoi? Ils me disent, ce sont des Nigérians. On ne travaille pas avec des Nigérians, mais tu es malade ou quoi? C'est des trafiquants, c'est des violeurs. Tu vois. Et je t'attendais. Mais oui, attends, mais ils sont tous inscrits dans des réseaux de trafic de cocaïne, de la drogue, etc. C'était pas moi qui disais ça, en fait, c'était eux. Et ils disaient, nous, on ne travaille pas avec eux. Ils ne viennent pas habiter chez nous. Là, tu fais le tour de Boukhalef. On est au moins 2000 migrants. Il n'y a pas s'il y a un Nigérian qui habite chez nous, il doit renier ses origines. Il doit avoir des appartenances un peu mixtes, de genre sa mère d'une communauté ethnique d'un autre pays, en fait, pour se faire accepter. Et du coup, en fait, lors des entretiens avec des Nigérians, tout de suite, il se présente et me dit, bon, je suis Nigérian, mais je suis aussi Guinéen. Ma mère, de tel village, etc. Eux-mêmes, ils se font ça, d'accord. Et du coup, les Nigérians, ils se retrouvaient, en fait, doublement stigmatisés, que ce soit de la part de la communauté locale, que ce soit de la part de la communauté migratoire. Hein, les deux, en fait. Ce sont des dynamiques, en fait. C'est pour ça que j'ai essayé de focaliser plus sur ce type de frontières, en fait, qui se créent à l'intérieur. Bien évidemment, tout le monde estime de partir et tout. Mais comment le discours, en fait, change de « je veux partir » ou « j'avais l'intention de partir », mais chez tous les migrants, il y avait cette idée de Tanger comme ville frontière. Le Maroc a changé les lois, aujourd'hui. C'est que, avant, il n'y avait que les Algériens, les Tunisiens et les Sénégalais qui avaient le droit, en fait, d'accéder à l'emploi, parce qu'au Maroc, il y a comme en France la préférence nationale pour certains emplois. Mais au Maroc, c'était pour tous les emplois la préférence nationale, sauf pour les Tunisiens, Algériens et Sénégalais.
Nous, maintenant, c'est la préférence communautaire.
Voilà. Et du coup, en fait, on a changé les lois aujourd'hui, en fait, et l'accès au travail, l'accès à la santé et à l'école est accessible à tous les migrants réguliers. C'est-à-dire, en fait, il y a même, moi, ce que j'ai trouvé qui est vachement en avance par rapport même à la France. Et ça c'est grâce aussi, en grande partie, à des militants marocains qui ont fait beaucoup, en fait, qui ont beaucoup milité pour les droits des migrants au Maroc, en France. Et quand à partir de 2011, avec la mobilisation de 2011, ils sont tous rentrés au Maroc en disant ce qu'on n'a pas pu faire en France, on va le faire au Maroc. Et c'est grâce à eux que ça a changé. D'ailleurs, on passe d'un titre de séjour d'un an à 3 ans grâce à eux. C'était leur proposition, parmi eux, Gadem, des LIOA et tout. Et d'autre part, il y a aussi aujourd'hui, par exemple, à l'intérieur de l'école marocaine publique, il y a l'interdiction d'obliger les enfants non musulmans de suivre, en fait, les cours d'éducation islamique. C'est-à-dire, en fait, les enfants qui ne sont pas musulmans, le cours d'éducation islamique, ils ne sont pas obligés d'assister. Il faut juste prouver que vous n'êtes pas musulman et vous êtes dispensé, en fait, de cette matière. Ça, c'est vraiment... C'est-à-dire, en fait, au niveau des lois, ça suit. Mais ça, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant que l'intégration par le travail, en fait, ou dans une économie de 30% ou 40% d'informels. C'est extrêmement difficile de contrôler l'intégration ou même l'exclusion par le travail. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucun migrant qui va dire, en fait, moi, j'ai déposé, en fait, pour un travail, on m'a dit non. Si vous prenez juste le bâtiment, par exemple, 99% des gens qui travaillent dans le bâtiment, ils sont dans l'informel. C'est un travail extrêmement précaire, mais qui est aussi dans l'informel. Et du coup, c'est difficile de contrôler, en fait, les formes d'intégration par rapport à ça.
Et du coup, oui, passer aux questions transversales.
Oui, la police, il y a ce qu'on appelle, malheureusement, mais ça, c'est encore une fois, c'est aussi grâce aux associations. Avant 2014 et après 2014. Avant 2014, on faisait ce qu'on appelle la rafle. Ça rappelle un peu la Deuxième Guerre mondiale, le rapport avec les Juifs, on faisait la rafle, c'est-à-dire on prenait tous les migrants d'étrangers. Moi, j'ai assisté à ça, j'ai même été sollicité pour intervenir et tout. On prenait les migrants qu'on estime en fait trop nombreux à Tanger, et on commence en fait, on saisit genre 10-15 cars, et on les met à l'intérieur, et on commence à rouler, et tous les 20 km, on dépose un. 20 km, c'est-à-dire vous pouvez les déposer nulle part. Ça sera nulle part. Et du coup, en fait, et le but, en fait, c'est juste pour dégager la ville d'une concentration d'immigrants pendant un certain temps. Et par la suite, après, ils vont remonter, ils vont trouver des stratégies individuelles pour remonter, en fait, à pied ou autostop, etc., pour revenir dans la ville ou aller dans la ville la plus proche. Ils ont un réseau qui les accueille.
Du coup, attends, je fais une parenthèse sur ce que tu viens de dire. On a eu une séance du séminaire sur détention et mobilité. La séance précédente avec Martina Tazzioli. Du coup, et ça fait écho à la pratique que tu viens de décrire, que l'on retrouve en Europe, et où Martina montre bien que ce but est de... donc le but de disperser vise à ralentir l'immigration, dégrossir, contrôler, mais pas du tout à se débarrasser des gens.
Et,
donc c'est intéressant d'aller écouter
l'enregistrement
qui est en ligne, ça fait vraiment écho à ça.
C'est comme si vous avez, je sais pas, c'est le Maroc qui économise de l'argent avec ça. C'est-à-dire en fait, au lieu de avec l'argent qu'il reçoit, au lieu de les investir dans l'intégration d'immigrants, bah, ça change. À partir de 2014, en fait, à partir de ce qu'on appelle au Maroc la politique migratoire, c'est-à-dire la loi 0203, qui met en place, en fait, modifiée, qui permet, en fait, ce qu'on appelle la régularisation des migrants, etc. Mais à ce moment-là, même quand on régularise les migrants, on régularise autour de 30 000 migrants, mais parmi eux, il y a plus de Syriens que des subsahariens, pour des raisons stratégiques, mais aussi, voilà... Mais ce qui est intéressant, c'est que à partir de 2014, il y a une conscience chez la population migrante que le Maroc reçoit des aides de l'Union européenne pour leur intégration économique. Et tout de suite, on a vu émerger des associations des migrants au Maroc qui réclament leur droit à ces ressources en fait économiques européennes pour mieux améliorer leurs conditions de vie, d'accord, et qui sont soutenues dans ce sens par des associations locaux. Alors, à Tanger, par exemple, on va voir émerger deux associations. Il y a une avec laquelle on a travaillé qui s'appelle Visa sans frontières. Il y a une qui vient d'apparaître qui s'appelle Voix des migrants, etc. Mais bon, Voix des migrants, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dans le sens violent, c'est-à-dire sont très militants parfois, même, voilà, ils produisent de l'antiracisme parfois. C'est assez fort ce qu'ils font. Visa sans frontières, c'était tout à fait le contraire. Visa sans frontières, c'était l'interlocuteur entre les migrants et l'administration de la police. Parce qu'au début, en 2014, quand le Maroc a dit « je vais régulariser les migrants », personne ne veut candidater, déposer son dossier de peur, en fait, d'être lui-même. En fait, on pense que ça montre, en fait, la confiance dans un système politique. Parce que tous les migrants pensaient, en fait, que le Maroc fait ça exprès pour recenser les migrants et avoir leur adresse pour les expulser après. Et du coup, en fait, tout le monde était réticent. Contrairement à la deuxième régularisation, il y avait énormément de demandes parce que les gens, ils ont compris que ça fonctionne. Voilà, c'est que c'est vrai. C'est que quand on leur dit il faut déposer votre dossier pour la régularisation, c'est vrai. C'est pas pour rien. Voilà, ça c'est par rapport en fait à la ville. Après, pour habiter dans les appartements, quand j'ai dit ces appartements parfois ils ont des propriétaires. Ces propriétaires sont des migrants marocains à l'étranger. Et qui sont soit cassés par les Marocains, défoncés, on appelle ça défoncés, par les Marocains, et loués par la suite à des migrants. Mais loués dans le sens, en fait, on défonce la porte, vous payez 1000 dirhams, d'accord, et par la suite, vous habitez et vous donnez, en fait, le protecteur, en fait, une somme d'argent. C'est tout un réseau, il y a dedans, c'est un petit réseau mafieux. Enfin, sens mafieux, il y a des migrants, des Marocains, de tout, quoi. C'est composé de tout le monde. Et du coup, en fait, c'était assez hallucinant parce que moi, je suis entré là-bas plusieurs fois et c'est barricadé. Parce que vous avez des portes d'enfer, en fait, la première, la deuxième, la troisième. Et quand on sort, c'est comme une prison. Quand on sort vous accueillir, on ouvre la première porte avec plusieurs clés et on ferme derrière. Et après, on passe la deuxième, on ferme avec plusieurs clés. Ce sont les subsahariens qui font ça. Et quand je dis pourquoi, Ils me disent en fait parce qu'on a peur des attaques des Marocains. Et quand vous allez chez les Marocains, c'est la même chose. Ce sont des portes aussi, plusieurs portes fermées, donc à clé. Et quand vous dites aux Marocains pourquoi vous faites ça, ils disent on a peur d'être attaqué par les Africains. Et c'était assez intéressant en fait, parce que nous on a fini à dire bon, ça c'est tout le problème des autorités. S'il y a une politique migratoire à faire, c'est celle-là. C'est aller vers les gens et les faire rencontrer. D'accord ? Et qu'ils puissent parler entre eux et s'entendre. Et du coup, il y avait plusieurs initiatives qui se faisaient à ce niveau à Tanger, de genre des matchs de foot ensemble entre les migrants et des locaux dans le quartier, de la journée africaine, pour essayer de sensibiliser un peu la population par rapport à cette question. Mais ce qu'on nous on avait constaté, c'est le manque de connaissances des politiciens et des élus par rapport à la question. Et ils ont, au début, moi, j'étais vachement critique. Je me souviens, j'avais écrit un rapport pour une fondation allemande sur ça, et qui m'ont ramené le truc, qui m'ont dit ce que tu dis, c'est bien, mais c'est hyper critique. On peut pas donner ça aux autorités parce qu'on veut travailler avec les élus de la ville. Et au début, moi, j'étais vachement vexé. Ça se dit, ouais, c'est la vérité, c'est la réalité et tout. Sauf que c'est vrai que la façon dont j'ai décrit la situation, c'était très violent. Et on avait un copain, en fait, je lui dis que je ne peux pas travailler sur le dossier. Il a repris le document, il a retravaillé ça. Et quand je suis allé voir, moi, j'ai rencontré des élus, des acteurs associatifs, ils me disaient, mais on ne connaît rien sur ça. Vous ne pouvez pas nous demander d'appliquer une politique migratoire, sauf que nous, on ne voit que les migrants. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, une politique migratoire. Il faut nous aider. C'est venir nous expliquer qu'est-ce que c'est une politique migratoire, nous parler des migrants, leur mode de vie, qu'est-ce qu'on peut faire sur leur statut juridique, qu'est-ce que c'est un réfugié, qu'est-ce que c'est un migrant, qu'est-ce que c'est un demandeur d'asile. Donc il n'y a rien, nous, sur ça. Comment vous voulez qu'on les intègre? C'est récent pour nous. Nous, ils étaient là, ça fait 10 ans qu'ils sont là, et aujourd'hui, vous mettez des politiques et vous nous disiez, en fait, il faut appliquer la politique. Mais comment? Il faut faire des formations pour ces gens-là. Sur ces acteurs, on n'était pas associé à ce débat parce que ces migrants, ils sont pas à Rabat, ils sont à Tanger, d'accord. Et les migrants de Tanger et de Rabat, ils n'ont aucun problème, ils circulent très bien, à Casa non plus, ils circulent très bien, ils font des activités de toutes sortes, etc. Mais c'est à Tanger où ça pose problème.
Pour qu'on puisse passer à deux petits points qui seraient où tous les deux vous auriez à vous exprimer pour voir justement une question. Alors je dis simplement les deux points sur lesquels j'aimerais bien quand même que vous rebondissiez l'un l'autre. Dans ta présentation, Ralid, il y a plusieurs dimensions de l'intégration. Et c'est ça qui est très intéressant. Par exemple, il y a pas mal de choses qui m'ont interpellée. Tu parlais de valorisation des Marocains, par exemple, qui font travailler les Espagnols. On peut voir une intégration de certaines catégories de Marocains dévalorisés par le travail donné à des migrants. Tu parlais de l'insertion des Sénégalais, de Beni Makada, dans l'économie informelle du quartier. Donc cette intégration qui peut être locale par quartier, donc pas forcément non plus à tout le Maroc, même si après tu as dit aussi qu'il y avait une intégration à tout le Maroc. Une auto-intégration des migrants par le développement de leurs propres activités, y compris entre eux. Et une intégration en suscitant des activités comme celle des cybercafés qui sont investies par les Marocains, mais du fait de la présence des migrants. Et puis une intégration qui est différente en fonction des nationalités et notamment de la culture professionnelle, on peut dire, des nationalités. Alors, si tu as d'autres choses à ajouter sur l'intégration, tu peux le faire, même s'il y a déjà quand même beaucoup d'éléments. Mais je voudrais aussi que, du coup, Ivan puisse parler un petit peu de comment lui, il appréhende la notion d'intégration, et notamment, justement, ce programme qu'il y avait eu au Migration Policy Center, où, finalement, il y avait une tentative de redéfinition de la notion d'intégration qui est discutée. Et la deuxième question, rapidement, c'est le lien entre travail du chercheur et influence sur les décideurs politiques. En fait, il est plus facile pour des plus pratiqués et peut-être plus facile, en plus de la culture des économistes et des juristes, de faire de l'expertise, d'aller directement avec les décideurs politiques, etc. Et on trouve généralement chez les anthropologues, les sociologues, les ethnologues, beaucoup plus de réticence et notamment même une volonté parfois de séparer clairement les deux. Toi, tu es anthropologue. Tu participes à des consultances. Voilà, dire vous deux aussi. Et Yvan, toi, tu as montré aussi les limites des recommandations qui sont finalement jamais entendues, jamais appliquées. Donc finalement, à quoi bon ? Et est-ce que les anthropologues jouent un rôle ? Sont entendus ? Non, d'abord, oui, sont entendus, et puis voient ensuite un impact de leur recherche.
Moi je prends deux minutes pour répondre à ça. Je cite juste un entretien ici qui pour moi, qui est révélateur un peu des différentes formes d'intégration des migrants. C'est un migrant, en fait, camerounais, qui est artiste, etc. Et quand il arrive, en fait, à Tanger, au début, il peut partir, en fait, en Europe. Et quand il arrive à Tanger, il est complètement séduit par la ville, en fait. Il dit, bon, tout ce qu'une ville moderne, il y a dedans. Et il a envie, tout de suite, en fait, il veut monter une pièce de théâtre africaine. Vraiment, tu vois, tout de suite, il a eu l'idée. Il a dit, les Africains, ils sont là, ils vont rester là, d'accord ? Il faut saisir l'occasion pour faire quelque chose d'artistique et monter une pièce de théâtre. Il me dit, j'ai envie de monter un projet. Et si c'est faisable, il me faut juste l'aide de mes frères. Et c'est là, en fait, pour parler de l'intégration et les formes contre-intégration, il dit, mais ces derniers mais ce dernier point est difficile à réaliser. Comment tu peux partager ton rêve avec des gens qui ne pensent qu'à partir? Moi, j'ai besoin des gens qui ont l'intention de rester ici. C'est-à-dire, en fait, le vrai problème pour lui, comme il me disait, le vrai contrainte d'immigration, d'intégration, comme il l'explique lui-même, il me dit, en fait, c'est quand le migrant est partagé entre ici et ailleurs. Ça, c'est, tant qu'il est ici et ailleurs, ça devient trop difficile. Il faut se concentrer. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je parlais des différents parcours de migration par rapport à ce que les moyens qui souffrent aux migrants au niveau local, mais aussi des compétences qu'il déploie lui-même, en fait, pour s'insérer dans une économie, dans une culture, etc. C'est-à-dire, en fait, lui, il arrive avec un capital culturel qu'il veut tout de suite investir, en fait, dans un pays où il voit. Et du coup, en fait, c'est quelqu'un qui a trouvé les moyens, parce qu'il a adopté par une Italienne, en fait, un centre de culturel à Tanger, qui s'appelle une association qui s'appelle Tabadoul, géré par un Italien qui fait de la pilates, du sport, de théâtre et tout. Et c'est lui qui s'occupe des activités théâtrales. Et du coup, il veut que son activité soit avec des Africains. Et c'est vraiment... Et comme lui, j'en ai trouvé plein. D'autres activités d'intégration économique, ce sont parce qu'il y a un taux de chômage extrêmement élevé auprès des migrants. Et du coup, ce sont les femmes qui travaillent. Alors, maintenant. Maintenant, en fait, avoir une bonne noire au Maroc, c'est devenu tout à fait normal. Ça change. Voilà. C'est devenu, en fait, ça rentre dans notamment dans les grandes villes. Mais ce qui est intéressant, c'est l'activité économique. Par exemple, on va transformer, en fait, la maison en un restaurant où tous les jeunes, en fait, ils vont manger avec 5 dirhams, 6 dirhams. Vous n'êtes pas obligé de payer tout de suite, mais la cuisine, en fait, c'est une cuisine communautaire où tout le monde paye. Et ça permet, en fait, à la famille de se maintenir. Comme il disait, je paye 1500 dirhams de loyer, c'est mon appartement. Mais ça permet aussi aux frères de venir manger. Et moi, ça me permet, en fait, de survivre avec leur argent. Vous voyez, ce sont des formes de... Pour l'anthropologue, on n'est pas...
On va peut-être rester sur l'intégration d'abord, si tu veux...
Oui, je suis d'accord sur... En termes des politiques d'intégration et au Maroc, je suis d'accord avec toi que les questions santé, éducation... Tu as mentionné éducation, mais santé aussi, sont beaucoup plus importantes que les politiques actives de soutien à l'intégration dans le marché de l'emploi, par les raisons que tu as données, parce que dans un marché informel, c'est clair. Ceci dit, je pense qu'en termes d'analyse de l'intégration, les modalités d'intégration dans le marché de l'emploi restent clés, parce qu'ils déclenchent un peu toutes les autres modalités d'intégration. Et pour répondre à ta question, nous, dans les travaux qu'on a fait sur l'intégration, pour l'intégration de l'emploi, dans les marchés de l'emploi, que c'est ça que j'ai connu un peu mieux, on a en fait conceptualisé 8 dimensions différentes. Je simplifie l'effet d'avoir un emploi, donc chômage ou pas, ou être actif ou pas, parce que ça, souvent, c'est aussi important. L'utilisation des capacités, des compétences et des qualifications, surtout dans les emplois, et les salaires et les conditions du travail. Le problème, c'est que on peut conceptualiser ça quand on vient à les mesurer. C'est pratiquement impossible par les raisons des manques de données aussi en Europe, encore beaucoup plus dans les pays du Sud, Arabes, Méditerranéens, Maghreb, MENA. Ça, c'est un autre débat que je voudrais avoir. Et je suis en partie. C'est intéressant parce que cette histoire des pays arabes méditerranéens, c'était la réaction pour exclure l'Israël. À un moment où on parlait des pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Et donc, c'est intéressant comment la même terme peut migrer et être perçu très différent dans des contextes différents et par des acteurs différents. En tout cas, pour l'intégration, la seule information sur laquelle on peut bâtir vraiment une analyse, c'est l'emploi ou le chômage pour l'utilisation des capacités pour les salaires et conditions de travail. On n'y a pas les données pour faire une analyse de l'intégration des migrants, même en Europe. À une analyse macro, à niveau micro, évidemment, on peut le faire, mais c'est cher de le faire. Ouais.
Et alors, sur le lien entre recherche et décision,
Nous, on le fait. On a beaucoup de travaux de recherche, essentiellement, comme je te disais hier, des fonds européens, pour faire de la recherche réellement sur ça. Ça, on l'a fait, par exemple, avec... ce sont les deux études qu'on a fait, y compris cette étude. En fait, c'est des rapports financés par des fondations suisses, mais pas des rapports d'études de gens. Je suis chez moi, j'écris, quoi, mais partir sur le terrain avec...
Non, mais justement, c'est-à-dire qu'on peut voir la consultance comme un moyen de financer la recherche aussi.
Exactement. Mais ce n'est pas une consultance, ça, c'est une
ou
étude.
Ou alors d'espérer influencer la décision.
Ça, c'est une étude. Maintenant, ce qu'on a fait, on a développé un autre moyen, c'est qu'on a créé un centre... un centre de recherche à Rabat. Et ce centre de recherche aujourd'hui reçoit de l'argent, parce que la fondation à Eneshbol, en fait, avec la bourse sur l'immigration. Et du coup, en fait, le but, c'était de faire des analyses, des études qualitatives, mais à plusieurs mains, en fait, à chercher des étudiants à faire ça, à partir de leurs travaux de recherche, de mémoire, master et doctorat. Et par la suite, nous, à partir de ce travail, on va faire un policy brief, pour le présenter auprès des décideurs. Maintenant, nous, on a consacré, parce qu'on a un budget de faire ces recherches, on a consacré une partie de cet argent pour inviter les décideurs. On a inversé les choses. C'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en public. D'accord ? Bah, et s'ils ne nous appellent pas, bah, on n'ira pas. Nous, on a inversé les choses. C'est-à-dire, on a de l'argent, on travaille, on va rédiger... D'accord, des policy papers. Et après, en fait, on va faire appel aux décideurs. On va les inviter, nous, sur notre compte, à nous, et dans un hôtel, dans une salle, et on va leur dire ce qu'on a fait. Maintenant, on l'a changé. On l'a fait sur deux fois et ça a marché. On l'a fait pour la première recherche sur jeunes et violence et marginalité. Et maintenant, on est en train de le préparer sur la question migration, travail, migration, intégration au Maroc. Et on va le faire, voilà, il y a le volet santé, volet éducation, et on a même introduit un volet qui est extrêmement sensible au Maroc, mais on l'a introduit, on va travailler là-dessus, c'est sur la liberté de pratique religieuse. Alors, sur la communauté chrétienne de migrantes au Maroc. Voilà.
Oui.
Et du coup, en fait, ça nous permet vraiment d'y aller, c'est-à-dire, on a les moyens, on a par exemple, je donne un exemple, on a 50 000 euros pour 6 mois de recherche, bah, on réserve 6 000 euros pour ça.
D'accord.
Voilà. Moi, deux considérations rapides. La première, c'est que je considère que c'est même dangereux d'ignorer l'importance de la politique, les politiques d'intégration ou autres, dans l'analyse de la réalité de l'intégration, comme tu as voulu un peu le faire. Je pense, je renverse ta logique. De la même façon que je suis d'accord que la façon de nommer une réalité a des conséquences structurantes pour cette réalité, et notamment les subsahariens, c'est très intéressant de voir que maintenant, parmi les associations des immigrés à Rabat, il y a de plus en plus des associations des subsahariens qui se nomment comme ça. Donc, bien sûr, dans une logique d'offre-demande. Mais de la même façon, je pense que les politiques et les statuts juridiques ont une capacité, un potentiel structurant très important de la façon où ces immigrants se placent dans leur société d'accueil ou même de passage. Donc ça, c'est la première considération. La deuxième, le problème, c'est toujours, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'opinion publique à la fin, c'est pas si difficile de convaincre même les décideurs, les politiciens, même dans les milieux des chercheurs, c'est habituel de vraiment massacrer la Commission européenne, les eurocrates, etc. Mais finalement, on reçoit souvent un bon accueil et on comprend les plaidoyers qu'ils ont fait. Mais moi, je me souviens toujours.
Oui, dans les résultats.
Oui, mais je me souviens toujours d'une réponse que m'a donnée Rita Süssmuth, qui était l'ancienne présidente du Parlement allemand et ministre de Santé et des autres choses. Elle m'a dit oui, vous savez, elle a presque 80 ans. Elle a dit oui, vous avez raison. Elle est très éclairée et elle a beaucoup défendu les migrants et l'intégration des migrants en Allemagne. Elle a dit oui, vous avez raison, mais vous ne savez pas comment c'est difficile de gagner des élections. Donc, et c'est pour ça finalement que c'est au domaine des écoles, de l'éducation, au domaine des médias et au domaine de la politique qu'il faut probablement revenir au lieu de la politique des sélections, pas de la formulation des politiques, et c'est finalement une conséquence de tout ça. Et moi, je ne l'ai pas fait, par exemple.
Mais eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on doit arrêter là, parce que on meurt de faim, et que c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, en tout cas. Merci.
Merci.